Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission qui ne dérogera pas à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra, bienvenue, welcome, etc. dans ce genre de cas, vous apprendra donc que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale plus ou moins pertinente, toujours dans 24 notes secondes, les petites images qui bougent depuis largement plus d'un siècle maintenant. Ce jour, eh bien, nous allons embrasser les dernières années de la carrière d'un réalisateur américain, né George Dewey Cukor le 7 juillet 1899 à New York, qui nous quitta bien des années plus tard. Je les retrouverai tout à l'heure dans ma petite fiche, mais c'est pas important. George Cukor, donc, qui dans les années 30 et jusqu'à la fin des années 80, eh bien, fut un des maîtres, je dirais, de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Alors j'aurais bien aimé vous proposer une émission sur ses débuts et ensuite une émission sur ses fins, si on veut, mais il est hélas très difficile de se procurer les bandes originales de petites merveilles comme Sylvia Scarlett avec Catherine Hepburn tournée en 1935 ou de Indiscrétion avec James Stewart et la même tournée en 1940, voire de Hantise avec Ingrid Bergman dans mon souvenir tournée en 1944. À vrai dire, la seule bande originale qu'on aurait pu trouver assez facilement, c'est celle d'Autant en emporte le vent tournée en 1939 puisque George Cukor fit partie des nombreux réalisateurs engagé sur le tournage de ce film fleuve, mais il fut renvoyé. Mais du coup, on va se réfugier, si l'on veut, sur la dernière partie de carrière de George Cukor, qui est loin d'être déshonorante, même si elle ne comporte peut-être pas des films aussi talentueux que ceux que je viens de citer. Quoique, on va en juger par nous-mêmes. Et on va commencer par un film tourné en 1958. Donc, George Cukor a déjà atteint le sommet de sa carrière. Il a atteint un nouveau sommet 4 ans auparavant en réalisant un remake d'Une étoile est née, Star is Born, un mélodrame qui avait déjà été adapté dans les années 30 et dans lequel sa version, on retrouvait Judy Garland et James Mason dans les rôles principaux, un film qui a eu beaucoup de problèmes mais qui fut récompensé par de nombreux Oscars. En 1958, donc, on le trouva sur le tournage plus improbable d'accord de Car sauvage et le vent, pardonnez-moi, Wild is the Wind in English, un film dans lequel on retrouvait dans les rôles principaux pour Anna Magnani, Anthony Quinn et Anthony Franciosa, un film qui était en fait, puisque le procédé est de tout temps dans le cinéma américain, le remake d'un film italien tourné quelques années auparavant, en fait 10 ans auparavant, en 1947, dans lequel figurait déjà Anna Magnani, et qui n'avait accepté de tourner dans ce remake, et donc de jouer une Italienne qui débarquait quelque part dans le Nevada, chez un éleveur de moutons, interprété par Anthony Quinn, qui n'avait accepté ce rôle que si le film remake ressemblait beaucoup au film réalisé par celui qui à l'époque était son mari, Goffredo Alessandrini. Moi, enfin, c'était pas vraiment le cas, mais on retrouvait quand même la patte de George Cukor dans ce mélodrame. Et on va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Elle était signée de Dimitri Tiomkin, la chanson du film, puisqu'à l'époque, il y avait la chanson du film. Eh bien, c'est la douce voix de Johnny Mathis qui vous la susurre dans 24 notes secondes.
Love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, for wild is the wind. You touch me. I hear the sound of mandolins. Kiss, the world begins. You're spring to me, all things to me. Your life itself.
like a leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling to me, for we're creatures of the wind, and wild as the wind.
Le crooner Johnny Mathis interprétait une musique typiquement tiomkinienne. Je ne sais pas si on peut m'accorder ce barbarisme. En tout cas, une musique signée Dimitri Tiomkin pour un film de George Cukor sorti en 1957 avec Anna Magnani et Anthony Quinn dans les rôles principaux. Car sauvage et le vent. Quel beau titre. George Cukor, donc, auquel nous consacrons cette émission de 24 9 secondes, en tout cas aux dernières années de sa carrière. En 1959, juste pour dire un mot du personnage, car c'était quand même quelqu'un de très cultivé, ce qui n'est pas toujours le cas des réalisateurs américains, et de très délicat, puisque en 1959, il dirigea le Bal des Adieux en lieu et place de Charles Vidor, encore un nom moins connu du cinéma américain, qui était mort 3 semaines après le début du tournage. Mais Cukor refusa que son nom figure au générique final, alors que d'évidence, il avait tourné la majeure partie du film, et que le film donc ne fut attribué qu'au dit Charles Vidor. Si ça, c'est pas classe, alors je ne sais pas ce qui est classe. On va écouter cette fois quelque chose qui va être un peu dans le genre d'Anna Magnani transposé au Nevada. Cette fois, il s'agit de notre national Yves Montand transposé à New York, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1960 avec dans les rôles principaux Yves Montand, donc déjà cité, et Marilyn Monroe, dont c'était le dernier film entier, puisque après Le Milliardaire, elle commença un autre tournage à nouveau sous la direction de George Cukor. Ça s'appelait en anglais Something's Got to Give, en français Quelque chose finira par craquer, comme quoi il y a des titres vraiment prémonitoires. Et effectivement, c'est pendant le tournage de ce film qu'on découvrit Marilyn morte, suicidée, assassinée, que sais-je, c'est pas le sujet de l'émission de ce jour. En tout cas, Le Milliardaire, eh bien, c'est le dernier film lequel interpréta entier. Alors pourquoi Yves Montand? Ben, ma foi, c'était pas Yves Montand qui était prévu au départ. On avait Yul Brynner dans le rôle principal, ce qui est quand même tout à fait différent. Et pour des raisons assez complexes et trop longues à expliquer au micro de 24 notes secondes, il n'y eut pas Yul Brynner, il n'y eut pas non plus Gregory Peck, il n'y eut pas non plus Charlton Heston, il n'y eut pas non plus Cary Grant, il n'y eut pas non plus Rock Hudson. Et pour finir, il y eut Yves Montand sur les conseils d'Arthur Miller, le romancier qui, à l'époque, était le mari de Marilyn Monroe. Yves Montand, qui n'était pas tant connu pour ses prestations dans le cinéma français que par le fait que, juste avant le tournage du Milliardaire, eh bien, il avait fait une série triomphale de récitals, justement, à New York. À quoi ça tient? Allez, on écoute un extrait de la bande originale et pour le coup, eh bien, on va écouter la voix d'Yves Montand. Dans cet extrait, juste je voulais préciser que le titre anglais du film, plus explicite, pardon d'être si bavard, ça s'appelle Let's Make Love, mais dans 24 notes, seconde.
I'm susceptible to stars in the sky. I'm incurably romantic. If they're told to me all covered with sighs, the wildest of lies seem true. Each time a lovebird sings, I have no defenses. My heart is off on wings, alone with my senses. I'm a setup for the moon when it's bright. I'm incurably romantic. And I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you. But oh, your arms are nice, and they would be awfully nice if you turned out to be starry-eyed like me and incurable. terribly romantic too.
Each time a lovebird sings, I have no defenses. My heart is off on wings, along with my senses.
I'm a setup for the moon when it's bright. I'm incurably romantic, and I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you.
But oh, your arms are nice, and it would be awfully nice
if you turned out to be starry-eyed like me, and incurably romantic too.
Il n'aurait servi à rien qu'il tente de cacher qu'il était français. C'est Yves Montand dans la bande originale du Milliardaire avec évidemment Marilyn. On l'a entendu un petit peu à la fin, donc un film de Georges Cukor tourné en 1960. Et donc, eh bien, une collaboration de Marilyn et d'Yves Montand, dont on dit qu'elle allait bien au-delà d'une collaboration, ma foi, là encore. C'est comme la mort de Marilyn, c'est pas le sujet de ce jour. Le sujet de ce jour, c'est Georges Cukor, qui donc enchaînait encore dans les années 60, alors même qu'il avait commencé sa carrière, j'essaie de retrouver un petit fiche, en 1930, c'est-à-dire plus de 30 ans plus tôt, au tout début du cinéma parlant, donc à une autre époque du cinéma américain. Et bien, en 1964, c'est à lui qu'on confia l'adaptation au cinéma d'une comédie musicale qui triomphait à Broadway depuis mars 1956, une comédie musicale qui était adaptée elle-même d'une pièce de Georges Bernard Shaw jouée en 1912. La pièce, elle s'appelle Pygmalion. Le film, il s'appelle My Fair Lady, et c'est l'histoire d'Eliza Doolittle, une vendeuse qui est qui est récupérée sur un marché par le professeur Higgins pour en faire une belle dame de la société, pour montrer, en fait, comme dans l'histoire de Pygmalion, qu'on peut arriver à faire de quelqu'un qui n'est pas au départ eh bien quelqu'un de grande classe, juste en l'éduquant. Les rôles principaux du film étaient tenus par Audrey Byrne, dont les fans de 24/9 secondes savent que c'est de loin la femme de ma vie, à qui vous savez, et à ses côtés le professeur Higgins, j'en bafouille mais il s'agit d'Audrey, à ses côtés donc le professeur Higgins, c'était Rex Harrison. Alors, premier outrage à la scène, donc à Broadway, eh bien c'était Julie Andrews qui avait tenu pendant de longues années le rôle principal d'Eliza Doolittle, et donc elle fut bien marie de ne pas l'obtenir au cinéma. Et deuxième outrage, c'est que Audrey Byrne, qui s'était appliquée pendant tout le tournage à chanter, puisqu'il s'agit d'une comédie musicale, eh bien, Georges Cukor et les producteurs du film, s'agissant d'une très très grosse production, estimèrent que sa voix était un peu frêle par rapport au rôle qu'elle avait à interpréter, et contre son avis, et donc malgré elle, eh bien, ils la firent doubler par une autre chanteuse. Donc, si vous avez suivi, eh bien, c'est pas la voix d'Audrey que vous allez entendre maintenant, puisqu'on va écouter évidemment un extrait chanté de cette bande originale, mais la voix d'une actrice dont le nom, et là encore c'est pas très gentil de la part d'Audrey, dont le nom ne fut jamais cité dans le générique du film, donc je ne la citerai pas non plus, parce que moi, quand Audrey me dit de faire quelque chose, je le fais tout le temps dans 24 notes secondes.
Just you wait in me, Higgins, just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too light. You'll be broke and all have money. Will I help you, damn be funny? Just you wait, Henry Higgins, just you wait. Just you wait, Henry Higgins, till you're sick. And you screams to fetch a doctor double quick. I'll be off a second lighter and go straight to the theater. Ha ha, Henry Higgins, just you wait. Ooh, Henry Higgins, just you wait until we're swimming in the sea. Ooh, Henry Higgins.
time for little ways from me. When you yell, you're gonna drown, or get dressed and go to town. Ho, 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 Henry Higgins. Ho, 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 Henry Higgins. Just you wait.
Why, and I, or be famous, or be proper and prim, go to St. James, so often I will call it St. Jim. One evening the king will say, oh, Liza, old thing, I want all of England your praises to sing next week on the 20th of May. I proclaim Liza Doolittle Day. All the people will celebrate the glory of you, and whatever you wish and what I gladly will do. Thanks a lot, King, says I, in a manner well bred, but all I want is Henry Higgins' head.
Done, says the king with a stroke. God, run and bring in the bloke. Then they'll march Henry Higgins to the wall, and the king will tell me lies as stand the call. As they raise their rifles, I'll shut, ready, aim, fire! Oh, ha, ha! Henry Higgins, Daniel, go! Henry Higgins! Just you wait!
Just you wait, je ne peux pas le faire, c'est tout le jeu sur les accents qui fait le sel de My Fair Lady dans une série de scènes absolument irrésistibles de drôlerie entre Audrey Hepburn, l'élève, et Rex Harrison, le maître, le professeur. Donc My Fair Lady qui obtint cette année-là de nombreux Oscars, mais comme quoi, bien mal acquis, etc., eh bien l'Oscar échappa à Audrey Hepburn au profit de, vous l'avez deviné déjà, de Julie Andrews, effectivement, qui l'obtint. Alors là, je n'ai pas ma petite fiche sous les yeux, donc je me lance, je pense que c'était pour La Mélodie du Bonheur, mais si c'était pour Mary Poppins, vous me pardonnerez, c'était l'un des deux en tout cas. Julie, on t'aime aussi, avec Audrey, mais moins peut-être. Bon bref, on va pas en rester avec My Fair Lady et avec Audrey, parce que sinon vous voyez, ça trouble toute l'émission, c'est pourquoi d'ailleurs je n'ai jamais consacré d'émission à Audrey Hepburn. On va passer à un autre film signé George Cukor, un film tourné en 1969, alors qu'il ne fut pas une aussi grande réussite, et c'est peu de le dire, que My Fair Lady, puisqu'il eut beaucoup de problèmes de production. Le réalisateur, un instant pressenti, fut renvoyé, un peu comme ça avait été le cas de George Cukor sur Autant l'emporte le vent. Il faut dire aussi que le film, c'était l'adaptation à l'écran d'un roman, ou plutôt de quatre romans signés de Laurence Durrell. Ça s'appelle le Quatuor d'Alexandrie. Quatre forts volumes à adapter en 1h40. Le défi était quand même un peu trop à relever. Et ma foi, le film n'était pas dépourvu de qualité, notamment pour ce qui était de son interprétation internationale, puisqu'on y retrouvait Anouk Aimée, Dirk Bogarde, Anna Karina et même Philippe Noiret ou Michael York. Le tout était bienvenu, assez classique, pourrait-on dire aujourd'hui, mais on était très très loin de Laurence Durrell et on était aussi très très loin des grands films de George Cukor des années 30 déjà évoqués. Par contre, pour ce qui était de la musique, eh bien on avait toute proportion gardée l'équivalent d'Audrey Hepburn, puisque c'était ce cher Jerry Goldsmith, dont là encore les aficionados de 24 notes secondes savent que c'est mon préféré. Mais alors, de très très loin par rapport aux autres, Jerry Goldsmith, donc, qui nous signait une partition tout à fait romantique, un peu pas trop dans son genre habituel, pour ce Justine, ah ben j'avais même pas cité le titre, dis donc, Justine de George Cukor dans 24 notes secondes. Un extrait de la bande originale signée Jerry Goldsmith, aussi étonnant que cela paraisse, de Justine, un film de George Cukor tourné en 1969. Alors c'était Anouk Aimée qui tenait le rôle de Justine. Justine, c'est une des quatre parties du Quatuor d'Alexandrie, un chef-d'œuvre de Laurence Durel, mais justement un chef-d'œuvre difficilement adaptable au cinéma. C'était pas tout à fait le dernier film de George Cukor, puisque après 1969, on le vit en 1972 avec Voyage avec ma tante, qui est une petite merveille méconnue, un film très intéressant, mais j'ai pas trouvé à la musique, sinon je vous l'aurais passé, c'est sûr. Et puis en 1976, il tourna L'Oiseau Bleu, une coproduction américano-soviétique assez improbable, avec, si je me souviens bien, Elizabeth Taylor dans le rôle principal, d'après, si je me souviens bien encore, un conte de Maurice Maeterlinck. Mais MMS, son dernier film, eh bien, il était très hollywoodien en diable. Ça s'appelle Riche et célèbre, Rich and Famous. C'est un peu, je dirais, un des mantras de George Cukor tout au long de sa carrière. On a évoqué tout à l'heure Indiscrétion ou Sylvia Scarlett. C'était vraiment des films de personnes riches et célèbres. Donc en 1981, ce qui va s'avérer le dernier film de George Cukor réunissait dans les rôles principaux Jacqueline Bisset et Candice Bergen. Alors, je ne sais pas si on a encore le droit de dire ça, mais c'était vraiment un film de fille, c'est-à-dire le destin parallèle de deux personnes, personnalités même, interprétées donc par Jacqueline Bisset et Candice Bergen, qui connaissent des joies, des succès, des amours, des déceptions, bref, du tout venant, ma foi, un peu convenu, mais plutôt bien tourné grâce à George Cukor et plutôt bien interprété avec le charisme de Jacqueline Bisset et surtout de Candice Bergen. Et puis aussi, il y avait Meg Ryan qui jouait le rôle de la fille de Candice Bergen. Donc forcément, c'est comme Audrey, un film avec Meg, il est forcément bien. Et puis, tout à l'heure, on a écouté un Français d'Hollywood en la personne d'Yves Montand. Eh bien, on va se quitter avec un autre Français d'Hollywood qui fit une brillante carrière aussi dans le cinéma américain. Notre regretté Georges Delerue, qui avait accompagné et accompagné encore à cette époque-là François Truffaut et quelques autres dans le cinéma français, mais qui en parallèle faisait une grande carrière américaine, qui lui avait même valu un Oscar de la meilleure musique de film, c'est dire. Eh bien, c'est Georges Delerue qui composait la partition de Riche et célèbre, le dernier film de George Cukor. George Cukor nous quitta le 24 janvier 1983. Il avait déjà 82 ans quand il tournait Riche et célèbre. Il en avait 83 puisqu'il était né en 1899 à son décès. Il avait réalisé plus de 50 films. Le cinéma lui a beaucoup, donc on le remercie dans 24 notes secondes. Jean-Georges. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. On revoit à bientôt, c'est you, bye bye.